Vous écoutez On lit pour vous.
La santé mentale, l'angle mort des périodes de canicule. Un texte d'Anne-Sophie Dufour paru le 3 juillet 2026 dans Le Devoir. Si les conséquences sur la santé physique de l'actuelle vague de chaleur font les manchettes, ses effets sur la santé mentale restent dans l'ombre. Pourtant, de tels épisodes sont associés à une augmentation des hospitalisations pour troubles mentaux, des consultations auprès d'InfoSanté pour des conditions de santé mentale et même des suicides, détaillent des experts qui plaident pour une meilleure adaptation des soins aux hausses de température. Lors de la canicule qui a frappé Montréal en 2018, 66 personnes ont perdu la vie. Fait troublant, 26 % d'entre elles étaient atteintes de schizophrénie alors que ce trouble ne touche que 0,6 % de la population. À cela s'ajoutent 18 % des victimes qui souffraient d'un problème de consommation d'alcool. Les questions de santé mentale sont rarement abordées dans les communications de santé publique en cas de canicule, se désole Éric Lavigne, chercheur et épidémiologiste à Santé Canada et professeur à l'Université d'Ottawa. Il s'agit d'un défi de santé publique majeur, renchérit Jura Augustunavičius, professeur agrégé au département de santé environnementale et santé au travail de l'Université de Montréal. Nous devons accorder plus d'attention à la santé mentale, en particulier quand certains chiffres montrent que les personnes atteintes de troubles de santé mentale meurent de manière disproportionnée pendant les périodes de chaleur extrême. Quel lien entre santé mentale et chaleur? Nous essayons encore de comprendre quels mécanismes sous-tendent cette relation, admet la professeure Augustinavičius. Parmi les pistes, l'irritabilité et le stress accru par la chaleur qui peuvent exacerber des symptômes psychiatriques existants. La chaleur agit aussi directement sur le cerveau, explique Éric Lavigne. Ça peut affecter certains neurotransmetteurs, créer une certaine inflammation au niveau cérébral, affecter la capacité du cerveau à avoir une bonne oxygénation et les fonctions cognitives. L'épidémiologiste insiste également sur le rôle du sommeil. Quand les températures dépassent environ 26-27 degrés Celsius à l'intérieur des bâtiments, on entre dans une zone rouge où la qualité du sommeil est vraiment affectée. S'ensuivent irritabilité, symptômes dépressifs et anxiété qui s'accumulent au fil des nuits écourtées. Des populations vulnérables. Le docteur Simon Ducharme, psychiatre à l'Institut Douglas, s'inquiète particulièrement pour les personnes vivant avec des maladies psychiatriques sévères, comme des troubles psychotiques. Elles vivent souvent dans des milieux de vie défavorisés à cause de l'impact de la maladie, donc dans des environnements peu équipés pour faire face aux chaleurs. Ces personnes sont d'autant plus à risque puisque la chaleur peut interférer avec leurs médicaments. La chaleur modifie la façon dont certaines substances sont absorbées et éliminées, explique la professeure Augustunavičius. Les personnes isolées sont plus susceptibles de subir les répercussions de la chaleur sur leur santé mentale, tout comme celles en situation d'itinérance ou à faible revenu, qui n'ont pas nécessairement accès à la climatisation dans leur demeure, explique l'épidémiologiste. Toutefois, si ces populations vulnérables sont bien identifiées, la professeure Augustunavičius rappelle que le portrait reste incomplet. La recherche s'est surtout intéressée aux cas les plus sévères, et on connaît encore peu ce que la chaleur fait à la santé mentale de la population générale. Un système de soins à repenser. On est dans des contextes où il va y avoir davantage d'événements caniculaires, puis il faut s'adapter, affirme Éric Lavigne. Cela passe par des messages de santé publique qui intègrent la santé mentale, mais aussi par des gestes individuels comme préparer sa demeure et garder l'œil sur les personnes qui vivent seules. Les villes, elles, devraient offrir des zones climatisées et de la végétation urbaine, en priorité dans les quartiers défavorisés. À l'Institut Douglas, les patients suivis en clinique externe ont un code de risque. Lors des canicules, ils sont contactés selon leur niveau de vulnérabilité pour s'assurer qu'ils sont en sécurité, explique le docteur Ducharme. Il précise toutefois que les milieux de soins psychiatriques sont très mal équipés pour gérer la chaleur extrême. La plupart des chambres de patients ne sont pas climatisées. Ces installations devront être améliorées pour assurer le confort des patients. Pour la professeure Augustuna Vicius, il faut surtout renforcer la résilience des systèmes de soins, des lieux de soins climatisés et des espaces frais accessibles aux plus vulnérables. D'autres mesures restent à être développées et c'est l'objet de son projet de recherche, qui suivra des jeunes adultes à Montréal, au Mexique et en Argentine durant les périodes les plus chaudes, afin d'adapter les services de santé mentale au contexte de chaleur. C'était « La santé mentale, l'angle mort des périodes de canicule », un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 3 juillet 2026 dans Le Devoir.
Les belles histoires de Kim Yaroshevskaya, 1923-2025. Un texte de Véronique Parenteau paru le 1er octobre 2023 dans BANQ. Cette voix qui a fait fleurir l'imaginaire de plusieurs générations d'enfants, on la reconnaîtrait entre toutes. C'est une voix qui chante même lorsqu'elle parle. Cette voix, c'est celle de la conteuse, scénariste et actrice Kim Yaroshevskaya, qui fut fanfreluche pour les uns et grand-mère pour les autres. De la Russie au grenier. Née à Moscou le 1er octobre 1923, elle est prénommée Kim en l'honneur du Parti Jeunesse Internationale Communiste, dont le nom en russe a pour acronyme Kim. Son père, trotskiste, et sa mère, anarchiste, décèdent quand elle est encore enfant, dans des circonstances qui demeurent floues. Après un séjour à l'orphelinat, Kim est élevée par sa grand-mère paternelle. Lorsque celle-ci devient trop malade, elle envoie la fillette de 10 ans rejoindre une tante qui vit à Montréal. Kim ne s'exprime alors qu'en russe. Écoutez Kim Yaroshevskaya parler de son enfance lors d'une entrevue avec la journaliste Isabelle Albert à l'émission En toute liberté en 1994. Elle revient aussi sur ses années en Russie et sur son arrivée au Québec dans Mon voyage en Amérique, publié en 2017. En lisant cet ouvrage illustré, on ne peut s'empêcher d'entendre la voix et le rire de l'autrice qu'il l'a véritablement écrit comme un conte. On peut d'ailleurs la voir lire un extrait du livre dans cette vidéo. Certes, sa voix est moins assurée que dans le passé, mais l'éclat espiègle de son regard reste intact. Et elle sait toujours nous transporter avec elle. Se rêvant d'abord danseuse, Kim Yaroshevskaya affirme ne jamais avoir choisi le métier de comédienne. C'est alors qu'elle enseigne la danse aux membres de la troupe de théâtre Le Grenier qu'elle a la piqûre. Un jour qu'elle les observe répéter une pièce, elle ne peut s'empêcher de les interrompre à plusieurs reprises pour proposer ses idées, si bien que ses compagnons l'incitent à se joindre à eux. C'est finalement là, sur une scène, dans la peau d'un personnage qu'elle se sent à sa place. Fanfreluche, la poupée conteuse. Un peu plus tard, le théâtre Le Grenier reçoit la commande de préparer une pièce pour enfants. Guy Messier, Henriette Major, André Loiseau et Kim Yaroshevskaya décident alors d'inventer chacun un personnage, puis de créer le spectacle à partir de là. Pour penser à mon personnage, je me mets à la place de l'enfant que j'ai été. Quel personnage aimerais-je voir sur scène? Et tout de suite, je le sais. Je veux voir une poupée. Petite, j'en avais voulu une, tellement. Mais mes parents croyaient que jouer à la poupée empêchait les petites filles de devenir courageuses et fortes. Eh bien là, je vais voir sur scène devant moi s'accomplir ce désir ardent. Je vais voir une poupée qui marche, qui parle et qui danse par-dessus le marché. Kim Yaroshevskaya dans Mon voyage en Amérique, page 63. Vous l'aurez deviné, Fanfreluche vient de naître. Nous sommes en 1953. Ses trois compagnons deviendront le clown Fafouin, l'horloge Gudule et le pirate Maboule. On retrouvera ensuite la poupée à la télévision de Radio-Canada sur une période de 17 ans dans Fafouin, 1954, dans La boîte à surprises, 1956-1972, et enfin dans sa propre émission Fanfreluche, 1968-1971. La comédienne écrit elle-même les textes de Fanfreluche, ce personnage grâce auquel elle transportera des milliers d'enfants dans des univers merveilleux peuplés de sorcières, d'ogres et d'animaux qui parlent, parmi bien d'autres êtres fascinants. Si elle reprend généralement des contes venus de partout dans le monde, elle y ajoute avec plaisir une touche bien personnelle. J'aimais plus que tout cette tangente que j'avais prise de remettre en question l'ordre établi, de taquiner les sorcières plutôt que de les laisser régner. Questionner l'ordre établi, autant dans la vie que dans les contes, c'est ce que j'aimais plus que tout. Kim Yaroshevskaya dans Chouinard, Marie-André. Une vie de conte, Le Devoir, 26 octobre 1998. Une tendance qui lui viendrait de ses parents idéalistes et révolutionnaires? Qui sait? Rappelons-nous que Fanfreluche avait l'habitude d'entrer dans les livres pour se mêler de l'histoire lorsqu'elle apercevait une injustice. Après tout, elle le disait d'entrée de jeu dans la chanson-thème de l'émission. Fanfreluche va raconter un beau conte à sa manière. La grand-mère de toute une génération. À compter de 1977, Kim Yaroshevskaya continue à raconter des histoires à la télévision, mais cette fois sous les traits d'un personnage bien plus sage que la poupée Fanfreluche. Enfilant un châle et une perruque grise, mais sans afficher la moindre ride, elle devient la grand-mère douce et à l'écoute que tous les enfants voudraient avoir. L'une des rares adultes visibles à l'écran dans l'entourage de Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne, grand-mère ne se contente pas de raconter des histoires. Elle est toujours disponible pour rassurer, consoler et rigoler. Entre autres projets, Kim Yaroshevskaya assure également, sur scène et sur disque, la narration de Pierre et Loulou de Prokofiev avec l'Orchestre métropolitain, alors dirigée par Agnès Grossman. Ce conte-là aussi, elle lui apporte sa touche personnelle. Par exemple, lorsqu'elle constate que les enfants sont tristes, que le loup ait avalé le canard, elle fait en sorte que le pauvre volatile parvienne à s'échapper de l'estomac du prédateur. Comment? Le canard chatouille le loup de l'intérieur, ce qui le fait rire et le force à ouvrir la gueule. Voilà une fin qui devait plaire bien davantage aux jeunes âmes sensibles. Aussi pour les adultes. Bien des années après Fanfreluche, Kim Yaroshevskaya découvre le plaisir de raconter des histoires aux adultes. Elle apprécie le fait qu'ils comprennent mieux que les enfants son humour et le second degré qu'elle y met. Dans « Contes d'humour et de sagesse », publié en 2012, elle livre à l'intention des grands une vingtaine de courtes histoires provenant de différents coins du monde. La comédienne n'a pas enfilé que les habits de Fanfreluche ou ceux de grand-mère. En fait, elle a passé beaucoup plus de temps sur les planches des théâtres au service d'auteurs comme Beckett, Ionesco, Garcia Lorca, Tchekhov, Shakespeare ou Camus, pour ne nommer que ceux-là. C'est d'ailleurs au théâtre qu'elle affirme avoir vécu les plus beaux moments de sa carrière. Très attachée à la culture russe, Kim Yaroshevskaya a aussi traduit quelques textes du russe au français, notamment des œuvres de Tchekhov, dont elle est une grande admiratrice. Par ailleurs, les contes de Pouchkine l'ont beaucoup inspirée pour ses propres histoires. C'est ainsi qu'elle a toujours gardé vivant son amour de la culture russe. Merci pour tout, Madame Yaroshevskaya. C'était Les belles histoires de Kim Yaroshevskaya, 1923-2025, un texte de Véronique Parenteau paru le 1er octobre 2023 dans BANQ.
L'héritage vivant de VLB Éditeur. Une entrevue réalisée par Annabelle Moreau, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Au Québec, une maison d'édition qui franchit le cap du demi-siècle est plus qu'une entreprise culturelle. C'est un pan entier de l'histoire littéraire et politique. Discussion avec le directeur de l'édition actuelle, Alain-Nicolas Renaud. Ce qui est intéressant avec une maison qui a de l'âge comme la nôtre, explique Alain-Nicolas Renaud, c'est que ce passé, le fait que ce soit la maison de Victor Lévy Beaulieu, mais également celle de Jacques Langteau, nous rassérène dans certaines décisions parce qu'on ne parle pas seulement pour nous, mais aussi pour ce que cette maison a représenté et continuera de représenter après nous. Ironiquement, Alain-Nicolas Renaud a passé plus d'années à VLB Éditeur que son illustre fondateur. Une quinzaine d'années pour Renaud, alors que le plus célèbre des pistolois y a été à l'œuvre moins d'une décennie. Victor Lévy Beaulieu fonde sa maison éponyme en avril 1976. Il est accompagné de 5 acolytes non moins illustres, Gilbert Larocque, Michel Garneau, Jean-Claude Germain, Claude Lévesque et Léandre Bergeron. Ce sont eux qui signeront les premiers titres, notamment le tout premier « L'étrangeté du texte »,« Essai sur Nietzsche »,« Freud »,« Blanchot et Derrida » de Claude Lévesque, qui annonce déjà une orientation préférentielle vers la réflexion profonde et l'engagement. L'année 1976 est emblématique pour le milieu littéraire et théâtral québécois. C'est l'année d'Inès Perret et Inate Tendu de Régent Ducharme. Celle de Fille commando bandée de José Yvon, de Le Guélion de Louki Bercianic, de Sainte-Carmen de la Maine de Michel Tremblay, de La Nef des sorcières, d'un collectif composé de Nicole Brossard et Marie-Claire Blais, entre autres, et Je suis une maudite sauvagesse, d'Anne Antan Capèche, dans une traduction de José Maillot, du Roman à l'imparfait de Gilles Marcotte. Sont aussi fondées les revues Estuaire, Jeux et Lettres québécoises. Et enfin, un certain Parti québécois, avec à sa tête René Lévesque, se fait élire pour la première fois. Beaulieu publie lui-même dans sa fraîche maison les récits Blanche forcée et n'évoque plus que le désenchantement de ta ténèbre, mon si pauvre Abel. Dans ce dernier, il se lamente à propos de son double rôle d'écrivain et d'éditeur, l'un annihilant l'autre. Ma vie d'éditeur m'épuise parfois et j'ai sommeil devant ma table, juste assez conscient pour me rendre compte que que le pot de vaseline dont je parlais tantôt est plutôt un pot de Vicks, ce qui m'est lourd de conséquences. À l'occasion du 20e anniversaire de l'éditeur, en 1997, Jean Royer écrit dans « Lettres québécoises » VLB éditeur allait résumer les aspirations d'une société qui voudrait désormais s'identifier par sa littérature. Et, en 5 décennies, la maison fera paraître quelques 1200 titres, un immense catalogue pour un immense engagement. Des successions. L'histoire de VLB éditeur se décline en époques distinctes, imprégnées par des changements de main qui, paradoxalement, ont préservé son ADN. Victor Lévy-Beaulieu cède la maison à Jacques Langteau en 1984. Sous son règne, le roman et l'essai sociopolitique se déploient. Langteau prend des risques en publiant de jeunes auteurs comme Dany Laferrière, Madeleine Gagnon, Michel Doré ou Marie Laberge. La maison bourgeonne. En 1990, VLB éditeur passe au groupe Sogides. Jacques Langteau y demeure éditeur, puis quitte la maison pour fonder Langteau éditeur en 1995. Sogides est ensuite acheté par Québécois en 2005. VLB éditeur intègre alors le bouquet de maisons d'édition aujourd'hui connu sous le groupe Ville-Marie Littérature, aux côtés de Typo, l'Hexagone, la Bagnole et les éditions du journal. C'est dans cette continuité complexe entre héritage et mutations industrielles qu'Alain-Nicolas Renaud incarne la mémoire et la vision contemporaine de VLB éditeur. Pour lui, l'histoire n'est pas un fardeau, mais une structure. Il pose le regard sur les figures fondatrices avec un respect lucide. Victor Lévy-Beaulieu n'est pas une figure tutélaire pour moi, mais disons que c'est une figure qui impose le respect. Jacques Langteau aussi. Une maison, c'est surtout tous les auteurs et toutes les autrices qui y sont passés et qui ont laissé leur marque. Une maison vivante. Ce qui définit VLB éditeur aujourd'hui, c'est ce double ancrage dans l'humain et l'historique. Depuis l'inclusion au groupe, où des ressources sont partagées, notamment pour ce qui est des communications, de la promotion ou de la gestion des droits étrangers, l'édition des 12 à 20 titres annuels se fait entièrement par la petite équipe conduite par Alain-Nicolas Renaud et composée des éditrices Marie-Hélène Poitras et Miruna Crașiunescu et du coordonnateur à l'édition, Billy Robinson. Martin Balthazar est le directeur principal du groupe Ville-Marie Littérature et veille sur la boîte depuis plus longtemps qu'Alain-Nicolas Renaud, assurant ainsi une grande stabilité des visées éditoriales. Au cours des dernières années, VLB éditeur s'est davantage concentré sur la littérature et la fiction, tout en conservant les piliers de son héritage essayistique. VLB éditeur se veut toujours une maison qui a des affinités indépendantistes, une maison littéraire qui, à sa création, avait des aspirations émancipatrices, d'avancer Renaud. Elle se réclame d'un intérêt poussé pour l'histoire du Québec et son passé syndicaliste et collectiviste. On est aussi, bien sûr, une maison généraliste, poursuit le directeur de l'édition, qui fait des choses qui ne sont pas nécessairement dans la ligne du parti ou dans la ligne de notre mentalité à nous-mêmes propres. Nous sommes une maison qui a également une propension, un souhait, un désir de liberté, de débat public, et même de s'exposer à des débats inhabituels par rapport à nos ornières personnelles. L'investissement de VLB Éditeur pour la littérature vivante est particulièrement notable avec le prix Robert Clich du premier roman. Ce concours attire chaque année entre 100 et 150 manuscrits, offrant à la maison la chance de découvrir de nouvelles voies. Riyad Hassani Razaki, Antoine Charbonneau de Mers, Lynn Richard ou Paul-Serge Forêt sont parmi les plus récents lauréats et lauréates du prix qui a couronné par le passé des écrivains et écrivaines comme Christine Brouillette, Robert Lalonde ou Roxane Bouchard. M. Renaud insiste sur la nature collective et passionnelle du travail éditorial et fait amplement référence à ses camarades lors de l'entrevue. Pour lui, l'essence du métier réside dans l'intimité du travail sur le texte. Ce qui me fascine et me plaît le plus, c'est la dimension artisanale. C'est vraiment le travail du texte avec l'auteur. Il décrit la relation avec l'écrivain comme un échange constant où le manuscrit sert d'intermédiaire et où le papier continue d'être un socle. On fait un métier qui est axé sur le matériel. C'est un des derniers métiers intellectuels axés sur le matériel. À VLB Éditeur, on aime le papier et sa texture. De conclure, Alain-Nicolas Renaud. Ainsi, la pérennité, ce n'est pas tout changer constamment, mais construire par le temps et par les auteurs. C'était l'héritage vivant de VLB Éditeur. Une entrevue réalisée par Annabelle Moreau, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.